Et francophile de la capitale britanno-colombienne, l'éclipse est maintenant derrière nous, les astres poursuivent leur course et les actualités aussi. C'est le début d'une nouvelle édition du Débrief, votre rendez-vous info quotidien à l'antenne du 107.9 FM. C'est Alexis Gagnon au micro avec vous au cours de la prochaine heure. Merci de syntoniser votre fréquence communautaire francophone. On va débuter dans quelques instants avec l'édition des 21 et 22 août. On commence avec la revue de presse internationale. Bonne émission à tous. Vous écoutez le Débrief, votre rendez-vous info quotidien à l'antenne du 107.9 FM. Voici votre revue de presse internationale. Tout de suite dans le fil de l'agence Reuters, Abou Yacoub, tué par la police de Catalogne à Subirat, à l'ouest de Barcelone. Younes Abou Yacoub, dernier membre encore en fuite de la cellule djihadiste responsable des attentats de Barcelone et de Cambrils, a été tué par la police catalane lundi à Subirat, une commune située à l'ouest de Barcelone en Espagne, rapporte la télévision publique espagnole, citant des sources proches de l'enquête, peut-on lire dans cet article de Reuters. La police de Catalogne a annoncé de son côté qu'un homme avait été abattu lors d'une opération de police dans cette localité située à une cinquantaine de kilomètres de la capitale catalane. La police a précisé sur son compte Twitter que l'individu semblait porter une ceinture d'explosifs, mais n'a pas précisé s'il s'agissait bien d'Abou Yacoub. Alors vous aurez les dernières informations sur le fil de Reuters et dans à tous les médias aujourd'hui. La nouvelle est tombée en début de matinée. Toujours dans le fil de Reuters, les États-Unis suspendent la délivrance de visas en Russie. Les États-Unis ont annoncé une nette réduction de leurs services de visa en Russie lundi en expliquant cette décision par la forte diminution de leur personnel diplomatique exigé par Moscou en représailles à l'adoption de nouvelles sanctions américaines. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a critiqué l'initiative américaine, disant y voir une tentative d'attiser le mécontentement des Russes contre les actions des autorités russes. C'est une logique bien connue, a déclaré le chef de la diplomatie russe. C'est la logique de ceux qui organisent des révolutions colorées, a-t-il ajouté en allusion notamment à la révolution orange en Ukraine. L'ambassade des États-Unis à Moscou précise sur son site Internet que la délivrance de visa aux ressortissants russes sera suspendue à compter du mercredi 23 août, à l'exception des demandes d'immigration, et qu'elle reprendra le 1er septembre à un niveau fortement réduit. Toujours à propos des États-Unis et de la diplomatie entre les États-Unis et la Russie, cet article aperçu pour vous dans le journal Le Monde à l'adresse lemonde.fr, un nouvel ambassadeur russe de combat aux États-Unis. Pour diriger la représentation russe à Washington, Vladimir Poutine, le numéro un de l'État russe, a nommé par décret Anatoli Antonov, un diplomate inscrit sur les listes des sanctions européennes et canadiennes. Un article qui paraît dans Le Monde sous la plume de la journaliste Isabelle Mandreau en date du 21 août. Anatoli Antonov, nommé ambassadeur russe aux États-Unis par un décret de Vladimir Poutine lundi 21 août, va succéder à Sergueï Kislyak, que la presse américaine ne présente plus que comme un maître espion. La mission du diplomate de 62 ans, telle qu'il l'a lui-même définie, consiste d'abord à redresser la pente dans un pays plongé en pleine tourmente sur sa relation avec la Russie. La candidature d'Antonov avait déjà été validée par la Douma, la chambre basse du Parlement russe, précise cet article du journal Le Monde. Une validation qui est survenue lors d'une séance à huis clos. Et le nouvel ambassadeur a été adoubé le 22 mai par le Conseil de la Fédération, l'équivalent du Sénat russe. Donc c'est une décision qui était déjà connue. Monsieur Antonov, donc, qui entrera prochainement en fonction aux États-Unis à titre d'ambassadeur de Russie. C'est dans le journal Le Monde. On va se tourner vers le portail France 24 à l'adresse france24.com. Charlottesville, en Virginie, marque-t-elle la limite de la liberté d'expression pour l'extrême droite américaine? Question que pose cet article de France 24. écrit par le correspondant aux États-Unis. Aux États-Unis, le débat sur la liberté d'expression fait rage, peut-on lire, à la suite des récents rassemblements de suprémacistes blancs. Quelles sont les limites du premier amendement pour ceux qui diffusent leur haine, demande cet article. Dans la foulée de la polémique concernant les violents incidents de Charlottesville et la réaction plus que timorée du président Donald Trump, un autre débat enflamme les États-Unis. Doit-on bannir les idées suprémacistes blanches de l'Internet? Après publication d'un article se moquant d'une jeune femme tuée par un sympathisant néo-nazi lors des violences de Charlottesville, le média Daily Stormer, site très prisé par la sphère raciste, antisémite et suprémaciste américaine, s'est vu signifier le 15 août son exclusion par son fournisseur de nom de domaine GoDaddy.com. Le site Daily Stormer a donc tenté de migrer vers le service de Google, Google Domains, qui l'a à son tour débouté. Cloudflare, un fourniseur russe, et enfin Namecheap lui ont également tourné le dos avant que son fondateur, Andrew Anglin, se résolve à plonger dans le Dark Web, la strate de la toile, Internet inaccessible via les moteurs de recherche, pour laquelle l'internaute n'a d'autre choix que de passer par le réseau Tor. Alors le Daily Stormer qui a été bouté hors de l'Internet et qui devra être consulté maintenant dans le Dark Web, et cela pose la question de la liberté d'expression aux États-Unis. Un débat fait rage, c'est ce que rapporte France 24 dans cet article. Vous trouverez cela sous le titre « Charlottesville marque-t-elle la limite de la liberté d'expression pour l'extrême droite américaine ?» On reste sur le cas des États-Unis. La marine américaine, la US Navy, ordonne une pause opérationnelle pour éviter de nouveaux accidents. C'est une nouvelle qui paraît dans le fil de l'agence France-Presse. Le chef des opérations de la marine américaine a ordonné une pause opérationnelle dans le monde entier pour tenter d'éviter de nouveaux accidents comme la collision du destroyer USS John S. McCain. Lundi, au large de Singapour, une collision qui a fait 10 disparus et 5 blessés. L'amiral John Richardson a noté dans un message vidéo qu'il s'agissait de la seconde collision de ce type en peu de temps dans l'océan Pacifique. Cette tendance exige une action plus vigoureuse. Pour ce faire, j'ai demandé une pause opérationnelle de toutes nos flottes dans le monde entier, a-t-il déclaré. Cette nouvelle se trouve dans le fil de l'agence France-Presse. On va se transporter en Amérique du Sud maintenant en revenant dans le portail de France 24 à l'adresse france24.com. La Colombie offre protection et asile à l'ex-procureur du Venezuela. L'ex-procureur général du Venezuela et opposante Luisa Ortega, qui a fui en Colombie, est sous la protection de ce pays et l'asile lui sera octroyé si elle le souhaite, a déclaré lundi le président colombien Juan Manuel Santos. Chaviste, du nom du défunt Hugo Chavez, qui était président du Venezuela de 1999 à 2013, et mentor de Nicolas Maduro, l'actuel président. Cette dame, donc Luisa Ortega, devenue dissidente à 59 ans, avait été démise de ses fonctions le 5 août par la toute nouvelle assemblée constituante acquise au chef de l'État vénézuélien. Accompagnée de son époux, le député Chavis Germán Ferrer, elle est arrivée vendredi à Bogota dans un vol privé après avoir transité par l'île caribéenne d'Aruba. Alors la crise qui se poursuit au Venezuela, cette dissidente, l'ex-procureur général du Venezuela qui trouve refuge en Colombie. Dans le média Ouest France, à présent à l'adresse ouest-france.fr, Birmanie, un ex-enfant soldat arrêté pour avoir raconté son passé. Cet enfant a été arrêté par la police vendredi à Rangoon, en Birmanie, pour avoir raconté dans une interview son enlèvement par l'armée birmane à l'âge de 14 ans. Une preuve que les militaires continuent de jouer un rôle politique essentiel dans ce pays, le pays d'Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix. Malgré l'arrivée au pouvoir d'Aung San Suu Kyi, peut-on lire dans cet article de Ouest France, les militaires restent très influents en Birmanie. Un ancien enfant soldat a été arrêté et risque jusqu'à 2 ans de prison pour avoir décrit dans une interview son enlèvement par la puissante armée birmane. L'arrestation de cet ex-enfant soldat n'a pu être confirmée auprès de la police birmane, comme c'est souvent le cas dans ce pays. Selon sa sœur, il est détenu à la fameuse prison Insein, où les dissidents étaient emprisonnés à l'époque de la junte militaire. Son procès doit débuter le 1er septembre. Retour dans le fil de Reuters, manifestation à Hong Kong après la condamnation de 3 chefs de file de la contestation. Des dizaines de milliers de Hongkongais ont manifesté dimanche contre la condamnation à des peines de prison de 3 militants démocrates de premier plan, instigateurs du mouvement de contestation de 2014. Joshua Wong, 20 ans, Nathan Law, 24 ans et Alex Chow, 27 ans, ont été condamnés il y a quelques jours en appel à des peines de 6 à 8 mois de prison pour rassemblement illégal. Ils sont en outre déclarés inéligibles au Conseil législatif de Hong Kong pour les 5 prochaines années. Le cortège des manifestants s'est dirigé vers la Cour d'appel de Hong Kong, dénonçant la condamnation des 3 activistes et mettant en cause l'indépendance de la justice du territoire vis-à-vis de la Chine. Et la police de Hong Kong estimait la participation des manifestants à environ 23 000 personnes. Un article de fond sur Boko Haram dans le portail Mediapart, je tenais à vous le signaler, c'est intitulé « De quoi Boko Haram est-il le nom ?» C'est un blog, en fait, une entrée de blog signée par Jean-François Bayard. Vous trouverez ça à l'adresse blog.mediapart.fr. Boko Haram et sa répression ont mis à feu et à sang le bassin du lac Tchad en Afrique. Depuis son déclenchement en 2009-2010, l'insurrection djihadiste a plongé le nord-est du Nigeria dans un cycle de violence qui aurait causé la mort de quelques 20 000 personnes et le déplacement de plus de 2 millions d'entre elles. Par ailleurs, le conflit s'est étendu depuis 2014 au Tchad et au Cameroun, ainsi qu'au Niger, dans une moindre mesure. Alors l'auteur dans cet article cherche à approfondir les causes de ce soulèvement et de cette insurrection qu'il compare avec les autres foyers occupés par l'État islamique et le djihadisme dans le monde. Vous trouverez ça dans la portion blog du portail Mediapart sous le titre « De quoi Boko Haram est-il le nom ?» C'est signé par l'auteur Jean-François Bayard. On fait un petit tour dans le portail RFI.fr. Pour une nouvelle sur l'éclipse qu'on a vue ici même à Victoria, éclipse qui était partielle, mais tout de même fort impressionnante ici dans la région de Victoria. Le titre de cet article de RFI, États-Unis, l'éclipse solaire totale, une aubaine financière. Pour la première fois depuis 99 ans, une éclipse totale du soleil va traverser l'ensemble des États-Unis. Lundi 21 août 2017, des millions d'habitants dans une diagonale allant du nord-ouest au sud-est du pays vont être plongés dans l'obscurité pour quelques minutes. Une aubaine financière pour de nombreux commerces américains qui n'hésitent pas à surfer sur ce phénomène naturel pouvant rapporter gros. Alors cet article fait le décompte, si vous voulez, de toutes les exploitations commerciales qui se font autour de ce phénomène astronomique que l'on a connu aujourd'hui 21 août. L'hôtellerie notamment qui a pu capitaliser tous les hébergements situés dans la zone d'éclipse totale, évidemment, ont réalisé des gains importants, mais d'autres industries également. Et c'est ce que rapporte RFI dans cet article intitulé, je le rappelle, « L'éclipse solaire totale, une aubaine financière ». Et pour faire le pont avec les nouvelles canadiennes qui vont venir dans quelques instants à l'antenne de CILS dans cette édition du 21 août, on va se tourner vers Courrier International, un média que l'on trouve à l'adresse courrierinternational.com. Courrier International, c'est un média qui effectue des revues de presse quotidiennes et ils ont trouvé dans la publication Fortune un article sur Vancouver qu'ils ont traduit. Ils ont intitulé l'article « Vancouver, future capitale de la réalité virtuelle ». Un article fort intéressant donc sur cette nouvelle industrie qui se développe à Vancouver et qui est très présente par ailleurs à Montréal ainsi qu'à Toronto. En matière de nouvelles technologies, peut-on lire, Vancouver n'en est pas à son coup d'essai. Elle veut aujourd'hui profiter des mesures anti-immigration de Trump pour attirer les meilleurs talents internationaux dans un secteur très prometteur. Vancouver est bien placée pour devenir la capitale mondiale de la réalité virtuelle et augmentée, si l'on en croit le magazine Fortune, qui consacre une enquête à la stratégie mise en œuvre par le gouvernement provincial pour attirer les meilleurs talents internationaux du secteur. Les géants des nouvelles technologies que sont Facebook, Microsoft et Amazon ont tous des bureaux à Vancouver, a constaté Fortune, ce magazine américain. Depuis des années déjà, ces entreprises profitent des politiques d'immigration gouvernement du Canada, bien plus libérale que celle des États-Unis, pour faire venir des travailleurs qualifiés du monde entier et les faire travailler en étroite collaboration avec leurs équipes de San Francisco ou de Seattle. Le nombre d'emplois qualifiés créés par le secteur des nouvelles technologies en Colombie-Britannique a augmenté de 27 % au cours des 10 dernières années, signale cet article. Des postes en grande partie occupés par des expatriés qui n'auraient pas pu obtenir de permis de travail aux États-Unis. En matière de politique d'immigration, la province de Colombie-Britannique est d'ailleurs à l'avant-garde, souligne le magazine Fortune. Récemment, la première ministre Christy Clark, qui n'est plus en place, on le sait, a lancé l'idée d'accorder la citoyenneté canadienne à tout étudiant étranger ayant obtenu un doctorat au Canada. En plus des dispositions visant à faciliter l'obtention de visas pour les travailleurs qualifiés, le gouvernement provincial de Colombie-Britannique a pris en début d'année de nouvelles mesures fiscales, notamment en matière de crédit d'impôt pour favoriser les start-up spécialisées dans la réalité virtuelle et augmentée. Un article fort intéressant donc qui a paru à l'origine dans le magazine Fortune aux États-Unis et qui a été repris par la publication Courrier International qui l'a traduit. Vous trouverez ça sous le titre « Vancouver, future capitale de la réalité virtuelle » et ça nous permettra de faire le pont vers les nouvelles nationales. On se retrouve dans quelques instants avec la revue de presse canadienne. À tout de suite. Vous écoutez l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9 dans la grande région de Victoria. C'est le moment de passer aux nouvelles canadiennes. On va tout de suite se pencher dans l'édition du jour du journal Le Devoir à l'adresse ledevoir.com. Un texte qui a paru en fait il y a quelques jours sous la plume de l'éditorialiste Manon Cornelier. Ça s'intitule « Un aveu incontournable » et ça concerne la politique étrangère du Canada, politique étrangère concernant le dossier de l'Arabie Saoudite. Manon Cornelier intitule son édito « Un aveu incontournable ». Ça concerne, vous allez voir, la vente d'armes à l'Arabie Saoudite. Le gouvernement canadien, écrit-elle, attendait une preuve pour envisager l'annulation du contrat de vente de véhicules militaires à l'Arabie Saoudite. Le gouvernement l'a obtenu, cette preuve, cette semaine, de nul autre que l'ambassade saoudienne à Ottawa. Le Canada n'a donc plus d'excuses. Il doit prendre acte des déclarations de Riyad, la capitale saoudienne, et rompre tout contrat de vente d'armes avec le régime saoudien. À la fin de juillet, le Globe and Mail, rappelle Manon Cornelier dans cet éditorial, a obtenu des vidéos et des photos montrant des véhicules militaires de fabrication canadienne utilisés pour réprimer des citoyens chiites de la province orientale de l'Arabie Saoudite. Riyad s'était pourtant engagé à ne pas utiliser de matériel canadien contre sa propre population ni pour porter atteinte aux droits de la personne. Il s'agissait d'une condition pour que la vente soit autorisée par le Canada. À la suite de ces reportages du Globe and Mail, la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, avait rapidement annoncé une enquête pour vérifier les faits, rappelle encore Manon Cornelier. La ministre avait aussi promis que, si ceux-ci s'avéraient exacts, elle agirait. Et agir, a-t-on compris, pourrait dire l'annulation du controversé contrat de vente de véhicules blindés conclu par General Dynamics avec l'aide du gouvernement canadien. Ce contrat d'une valeur de 15 milliards de dollars, signé sous les conservateurs de Stephen Harper, avait besoin de permis supplémentaires pour se concrétiser. Les libéraux de Justin Trudeau ont accordé ces permis supplémentaires en avril 2016, malgré des protestations. Si des doutes persistaient sur le peu de poids des engagements de la capitale saoudienne, Riyad, ces doutes n'ont plus raison d'être, indique Manon Cornelier dans cet éditorial. En réponse aux questions du Globe and Mail cette semaine, l'ambassade de l'Arabie saoudite au Canada a déclaré que le régime saoudien a le droit d'utiliser son matériel militaire pour combattre des groupes terroristes afin de protéger les civils, a-t-elle dit. L'ambassade saoudienne au Canada a comparé l'utilisation des armes canadiennes à l'usage de la force par les Canadiens pour mettre fin à l'attentat contre le Parlement canadien en octobre 2014. Combattre le terrorisme et protéger des civils innocents ne sont pas des violations des droits de la personne, a insisté la chancellerie saoudienne. Alors, Manon Cornelier, dans cet éditorial, démonte l'argumentaire présenté au Globe and Mail par l'ambassade saoudienne au Canada. Vous aurez le détail dans son éditorial intitulé « Un aveu incontournable » qui appelle le gouvernement Trudeau à tirer les conséquences de ses découvertes au sujet des blindés canadiens en Arabie saoudite et donc d'annuler le contrat qui lie le Canada à ce pays. On va se rendre maintenant dans le Journal de Montréal à l'adresse journaldemontréal.com. Un article signé par le journaliste Vincent Larrain intitulé « Trudeau met en garde les migrants ». Le premier ministre Justin Trudeau a réagi pour la première fois dimanche à l'arrivée massive de demandeurs d'asile au Québec, avertissant ces derniers qu'ils devraient se plier au processus habituel. « Je veux indiquer aux gens qu'il n'y a aucun avantage à arriver au Canada de façon irrégulière », a déclaré le premier ministre. Notre système, nos règles, nos principes et nos lois vont s'appliquer à tout le monde, a-t-il ajouté. Mais pour le nouveau Parti démocratique, cette réponse n'est pas assez forte et arrive surtout trop tard. C'est la bonne chose à faire, de tendre la main aux demandeurs d'asile. Par contre, c'est trop peu et trop tard, a estimé le député du NPD Alexandre Boulris. Selon lui, le gouvernement aurait pu intervenir depuis longtemps pour prévenir l'entrée irrégulière des demandeurs d'asile et rassurer la population canadienne sur le traitement de leurs dossiers. Il y a beaucoup de confusion et peut-être que ce que M. Trudeau a dit aujourd'hui, dimanche, peut aider, mais il aurait été apprécié qu'il le dise il y a quelques semaines, a déclaré Alexandre Boulris, qui est député néo-démocrate au Québec. Le journaliste du Journal de Montréal interroge aussi un avocat spécialisé en droit de l'immigration, Éric Taillefer, qui soutient dans cet article que la déclaration de Justin Trudeau vient rétablir les faits, car plusieurs personnes au Canada croient encore, à tort, que les dossiers des demandeurs d'asile sont traités en priorité. Cette impression doit arrêter d'être diffusée, a déclaré l'avocat. Les demandeurs d'asile ne passent pas devant d'autres gens, a-t-il dit. Ce sont deux processus complètement différents. Ce ne sont pas les mêmes fonctionnaires qui traite ces deux types de demandes. Alors, la vague d'immigration dans le sud du Québec à la frontière avec les États-Unis qui continue d'agiter l'actualité. On a eu une manifestation et une contre-manifestation à Québec. Durant le week-end, peut-être en avez-vous entendu parler. Je vous lis quelques lignes d'un article qui paraît dans le fil de la presse canadienne intitulé « La contre-manifestation opposée à la meute tourne au vinaigre à Québec ». La meute, c'est un groupe d'extrême droite qui s'oppose, soi-disant, à l'immigration illégale. Des manifestants masqués sont allés vers la Grande Allée à Québec pour s'attaquer à des commerces, peut-on lire dans cet article de la presse canadienne. Un rassemblement organisé par la meute, ce groupe d'extrême droite, contre ce que les membres qualifient d'immigration illégale, a finalement eu lieu à Québec dimanche 20 août en fin de journée, après une contre-manifestation qui a tourné au vinaigre dans les rues de la Haute-Ville. En début de soirée, la police de Québec a fait état d'une seule arrestation, mais elle a prévenu que d'autres pourraient suivre, car elle dit détenir des images et des vidéos d'individus qui ont participé activement à cette manifestation illégale. La police de Québec a aussi affirmé dans un communiqué que trois policiers avaient été incommodés par un irritant chimique. Du côté des manifestants, la police a dit avoir été informée de 6 transports à l'hôpital. Alors, la meute à Québec qui souhaitait manifester avec son membership, une manifestation d'extrême droite qui réunissait environ 600 personnes. Et ces personnes ont été tenues à l'écart pendant plusieurs heures dans un stationnement en raison de la contre-manifestation d'opposants qui voulaient leur signifier leur désaccord. Donc, deux groupes qui se sont opposés à Québec ce week-end sur la question de l'immigration. Vous trouverez les détails, notamment dans le fil de la presse canadienne. On a d'ailleurs un compte-rendu heure par heure de cette manifestation sur le site indépendant ricochet.media sous le titre « La meute prise au piège ». C'est un reportage signé sur place, sur le terrain, par le reporter Michael Bergeron en date du 21 août dans le portail ricochet.media. On reste dans la question de l'immigration. Un sénateur qui doit répondre à des questions concernant ses préférences sur Facebook. Sénateur Boisvenu qui défend son adhésion à des groupes Facebook hostiles à l'immigration. L'article paraît dans le fil de la presse canadienne. Le sénateur conservateur Pierre-Hugues Boisvenu compte rester membre du groupe Facebook fréquenté par des sympathisants de la Meute et d'un autre des amis patriotes de Marine Le Pen, car il ne les considère pas anti-immigration et juge important d'y lire ce qui s'y écrit. Alors, la presse canadienne, dans cet article, évoque différents noms d'organismes et d'associations, mouvements auxquels aurait adhéré Pierre-Hugues Boisvenu sur le réseau Facebook, des mouvements qui s'opposent à l'immigration ou encore aux accommodements religieux. Et Pierre-Hugues Boisvenu, donc, qui se défend, indiquant que ces groupes ne sont pas anti-immigration. Vous aurez le détail dans cet article intitulé « Boisvenu défend son adhésion à des groupes Facebook hostiles à l'immigration ». On reste encore un petit peu dans le fil de la presse canadienne. La rivière des Outaouais est désignée comme lieu historique. Le gouvernement du Québec, peut-on lire, a emboîté le pas à celui de l'Ontario lundi et a désigné la rivière des Outaouais comme lieu historique. Il s'agit du deuxième lieu historique désigné depuis l'entrée en vigueur de la loi sur le patrimoine culturel après le fleuve Saint-Laurent. Alors, la rivière des Outaouais, on le sait, qui coule sur plusieurs centaines de kilomètres, notamment entre Ottawa et la ville de Gatineau, alors qui sépare la province de Québec et la province de l'Ontario. Cette décision va nous permettre de mettre en valeur l'histoire de la rivière des Outaouais, a déclaré Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications du Québec. Et surtout nous permettre de transmettre aux générations futures toutes les connaissances nécessaires et l'histoire de cette rivière. Le ministre québécois était accompagné de la ministre fédérale de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, et de la députée provinciale de l'Ontario dans la circonscription d'Ottawa-Vanier, Nathalie Desrosiers. Alors, une autre illustration de la propagation de la crise des surdoses ailleurs qu'en Colombie-Britannique, donc dans d'autres provinces du Canada. Au Québec, on a des surdoses qui sont de plus en plus signalées et en témoigne cet article paraissant dans le journal La Presse. Fentanyl, 4 accusés libérés sous condition. C'est un article que signe Louis-Samuel Perron. 4 hommes arrêtés vendredi à Montréal dans la foulée d'une série de cas de surdoses de fentanyl dans la métropole québécoises ont retrouvé leur liberté sous condition lundi matin. Le procureur de la Couronne convient que le fentanyl est très, très dangereux, mais ne s'est pas opposé à la remise en liberté des accusés en raison de leur absence d'antécédents criminels. Mathieu Quintal, Frédéric Couture et Michel Couturier-Bugeaud, tous âgés de 21 ans, ainsi que Jean-François Masson, 37 ans, ont été accusés samedi de possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic, et notamment de fentanyl, une drogue 40 fois plus puissante que l'héroïne. Aucune accusation liée au cas de surdose n'a toutefois été portée à leur endroit. Alors, une remise en liberté qui pourra en étonner certains. Les 4 hommes arrêtés vendredi, peut-on lire un peu plus bas dans cet article, avaient en leur possession de la méthamphétamine, du haschich, du cannabis, de l'héroïne et de la cocaïne, en plus du fentanyl. La possession de fentanyl en vue d'en faire le trafic est un facteur aggravant en raison de sa grande dangerosité, a soutenu Maître Pascal Dostaler, procureur de la Couronne, dans cette cause. Vous trouverez l'article dans le journal La Presse. Fentanyl, 4 accusés libérés sous condition, donc la crise des surdoses qui se manifeste également dans d'autres provinces, notamment au Québec. Ce tour d'horizon des nouvelles canadiennes s'achève. Je tiens à vous souligner la rédaction d'une tribune par Graham Fraser dans le journal Le Devoir, à l'adresse ledevoir.com. C'est dans la section Opinion de ce journal. Graham Fraser, l'ancien commissaire aux langues officielles du Canada. Il est aujourd'hui rattaché à l'Université d'Ottawa. Il est l'auteur de nombreux livres, notamment un livre sur le Parti québécois et d'un autre sur ses années au commissariat aux langues officielles. Sorry, I don't speak French. C'est un grand francophile et il revient sur la création, il y a 40 ans, de la loi 101 au Québec. Et c'est un compte-rendu assez objectif, très instructif, que je vous recommande chaudement dans le journal Le Devoir, section idées. Et Graham Fraser a donné à cette tribune le titre « Camille Lorrain voulait que la loi 101 soit un choc ». Et on va clore cette revue nationale en soulignant les activités de célébration du 375e anniversaire de Montréal qui se sont échelonnées, qui ont jalonné tout l'été. Et l'une des activités les plus récentes était un concert sur la montagne. La chroniqueuse du journal La Presse, Nathalie Petrovski, qui signe depuis de nombreuses années des chroniques culturelles dans ce journal, était présente à ce concert sur la montagne. Elle a beaucoup aimé et elle en fait le bilan, le compte-rendu dans cette chronique intitulée « Nuit magique sur la montagne ». Donc, un spectacle qui soulignait le 375e de Montréal. Le ciel était sans étoiles, une nappe d'ombre rendue laiteuse par les bancs de nuages au repos et résolue à y rester. L'air était doux, dit-elle, pas trop chaud ni trop frais, juste parfait. Et à 21h07, comme prévu, comme promis, l'orchestre dirigé par Simon Leclerc a résonné comme un coup de tonnerre dans la nuit étonnamment silencieuse. Alors c'est une belle critique, très élogieuse, de ce concert spécial, le premier depuis des décennies à se tenir sur le Mont-Royal. Alors à l'occasion du 375e anniversaire de Montréal, la ville a voulu marquer un grand coup et refaire ce spectacle sur la montagne. Et vous aurez le compte-rendu, le bilan de Nathalie Petrovski qui était présente lors de cette soirée historique. C'est dans le journal La Presse. Voilà pour les nouvelles canadiennes. Merci d'être à l'antenne de CILS FM 107,9 pour cette édition du 21 août du débrief, votre rendez-vous info. On va se retrouver de l'autre côté avec une nouvelle à thématique francophone ainsi que les nouvelles locales de Colombie-Britannique et de Victoria. À tout de suite. Alors si vous venez d'ouvrir votre poste ou de charger la page de CILSFM.ca, vous êtes dans l'émission Le Débrief, édition du 21 août. L'édition se poursuit avec les nouvelles locales de Colombie-Britannique et les nouvelles de Victoria, ici même dans la région. Mais auparavant, nous allons faire une petite nouvelle thématique francophone. Et cette nouvelle francophone, on l'aperçoit dans le portail HuffingtonPost.ca à l'adresse québec.huffingtonpost.ca. C'est un texte d'opinion signé par Mohamed El-Arbi Nisri. Il est historien des mentalités et des religions en Afrique du Nord et il signe une tribune sur la francophonie, l'avenir de la francophonie. Et il cherche à d'abord définir ce qu'est la francophonie en 2017. Et c'est un texte très intéressant, très éclairant, avec beaucoup d'histoires. Un texte de plusieurs paragraphes que vous trouverez sur le portail HuffingtonPost.ca. Il s'intitule « La communauté francophone a-t-elle un avenir ?» Je vous en lis quelques passages. Je ne scandaliserai certainement personne si j'observe, à l'instar de beaucoup de francophones, que la francophonie connaît actuellement une crise d'identité. Alors, c'est le préambule de cet article « Francophonie en crise » et « Francophonie qui se cherche ». Il en profite pour remonter dans l'histoire. « La francophonie repose-t-elle sur un concept univoque ?» demande-t-il. « Quelles sont ses origines et quelle a été son évolution ?» Le mot « francophonie », rappelle l'auteur, a été créé à la fin du 19e siècle par le géographe Onésime Reclus. Le mot désigne l'ensemble des locuteurs qui utilisent le français comme langue maternelle ou comme langue seconde. Cette notion tombe un peu dans l'oubli plus tard, jusqu'au début des années 1960. C'est en 1962 que le président du Sénégal et homme de lettres Léopold Sédar Senghor écrivait « La francophonie, c'est cet humanisme intégral qui se tisse autour de la terre, cette symbiose des énergies dormantes de tous les continents, de toutes les races, qui se réveillent à leur chaleur complémentaire ». Alors la francophonie, vous le voyez comme idéal humaniste, c'est ce que proposait Léopold Sédar Senghor, homme de lettres et homme d'État du Sénégal au début des années 60. L'auteur poursuit quelques décennies plus tard, au début des années 2000, l'ancien secrétaire général de la francophonie Boutros Boutros-Ghali notait « La francophonie est, par elle-même, une réponse à la mondialisation à laquelle nous sommes confrontés. La francophonie est pour nous tous une manière de dire que l'universalité n'est pas l'uniformité et que la globalisation n'est pas la banalisation. C'est un moyen d'exprimer et de célébrer la diversité des peuples et la diversité des cultures. C'est pourquoi il est nécessaire maintenant à penser la francophonie d'une manière différente et révolutionnaire, poursuit l'auteur. Ainsi, le rayonnement de la francophonie ne peut passer que par la diversité culturelle. » En effet, poursuit l'auteur dans cette tribune publiée par le site HuffingtonPost.ca, le combat politique pour une francophonie nouvelle ne peut se faire à l'enseigne du mot « francophone » mis au singulier. La prise en compte de ces francophonies plurielles suppose le dépassement d'un système littéraire orthodoxe. Il suppose tout autant la mise en place de nouveaux instruments politiques et culturels pour promouvoir cette francophonie multiple. Cela suppose tout aussi évidemment un système médiatique diversifié, adapté aux différentes cultures francophones et un dépassement de la conception traditionnelle du francocentrisme. L'auteur entend par francocentrisme la France comme centre du monde francophone, car la situation que les francophones ont à affronter aujourd'hui, poursuit-il, renvoie bien évidemment aux conséquences d'une conception de la francophonie qui est l'héritière directe de l'ère impériale. Et un peu plus loin, vers la conclusion de son papier, l'auteur indique « Dès le début de son mandat à la tête de l'Organisation mondiale de la francophonie, Boutros Boutros-Ghali avait posé la question lancinante du devenir de la francophonie. Est-elle encore utile? Répond-elle à un besoin? En un mot, la communauté francophone a-t-elle un avenir? » Apparemment, répond l'auteur, la réponse semble compliquée, puisque le regard dans le rétroviseur nous ramène à une incompétence d'intégrer la mondialisation et à confronter l'américanisation montante. La francophonie serait-elle donc une utopie? La réponse est non, car la francophonie continue d'intéresser le monde. Quelle en est la raison? ses valeurs, son imaginaire, la puissance du rêve qu'elle propose au monde, mariage de l'idéal révolutionnaire français avec les cultures du monde entier. Néanmoins, il ne faut pas négliger les défis, avertit l'auteur de cette tribune. Si ces dernières années, on était hésitant quant à l'avenir de la francophonie, il est temps maintenant de délaisser la francophonie au singulier et de songer à poursuivre sa réalisation avec des francophonies mosaïques et plurielles. Voilà l'avis de l'auteur de cette tribune intitulée « La communauté francophone a-t-elle un avenir ?» C'est signé par Mohamed El Arbi Nisri dans le portail HuffingtonPost.ca. C'est le moment de passer aux nouvelles provinciales. BC Wildfire Service, c'est le service de prévention et de gestion des incendies. Il a annoncé ce service que un feu s'était aggravé dans la région de Kennel. C'est en effet la combinaison de trois feux distincts qui se sont fusionnés et ont formé un seul brasier, un seul incendie, ce qui bien sûr inquiète les autorités. Vous aurez ça dans le fil anglophone de la presse canadienne en date d'aujourd'hui. La situation des incendies continue d'inquiéter grandement dans la province. On a aussi du côté du portail vicnews.com, le média Victoria News, un article qui comporte des extraits vidéo de ce fameux incendie qui est le produit de trois incendies distincts qui auraient fusionné au cours du week-end. Et cet article comprend des extraits pris à bord d'un hélicoptère, mais aussi les explications d'un responsable du service des incendies de la Colombie-Britannique. Sur le portail journalassurance.ca, nous apprenons que l'état d'urgence est prolongé en Colombie-Britannique. C'est un article qui paraît sur journal-assurance.ca en date du 21 août. L'état d'urgence a été officiellement prolongé jusqu'au 1er septembre en Colombie-Britannique, peut-on lire, en raison des nombreux feux de forêt qui sévissent dans la province de Colombie-Britannique depuis plus d'un mois. Après le 19 juillet et le 4 août, c'est donc la troisième fois que l'état d'urgence est renouvelé en Colombie-Britannique. La déclaration d'état d'urgence continuera à s'appliquer à l'ensemble de la province, peut-on lire. Les ressources fédérales, provinciales et locales continueront d'être mobilisées dans le cadre d'une réponse coordonnée afin d'assurer la sécurité publique, ce qui reste la principale priorité du gouvernement provincial. Et le portail britanno-colombien de Radio-Canada nous informe, quant à lui, que BC Wildfire pourrait perdre jusqu'à 40% de ses effectifs en septembre. BC Wildfire pourrait perdre entre 30 et 40% de ses effectifs qui combattent les feux en septembre en raison du retour aux études des étudiants et de l'arrivée à terme de nombreux contrats saisonniers. Les pertes de personnel s'étendent également aux répartiteurs et aux opérateurs radio, dont beaucoup travaillent sur des contrats saisonniers. Kevin Skrepnek, directeur de l'information pour BC Wildfire, a déclaré que des équipes provenant de l'extérieur de la province et de l'international viendront en renfort pour compenser le manque d'effectifs potentiels. Une assistance est également recherchée auprès des forces armées, des pompiers locaux et de l'industrie forestière, peut-on lire dans cet article de Radio-Canada. Petit saut dans le portail local de Victoria News où l'on était un petit peu plus tôt. Green leader Andrew Weaver calls for ride-sharing rules in BC. Alors le chef du Parti vert de Colombie-Britannique, Andrew Weaver, appelle à l'instauration de règles en matière de covoiturage dans la province. C'est une demande qui sera sans doute entendue par John Horgan. Les Verts sont en effet très nécessaires au maintien au pouvoir du gouvernement néo-démocrate de John Horgan. Les trois membres du Parti Vert élus aux élections du printemps soutiennent le Parti néo-démocrate. Donc on verra comment le gouvernement de John Horgan réagira à cet appel formulé publiquement par Andrew Weaver à des mesures de covoiturage dans la province. Vous aurez les détails dans le portail de Vic News, Victoria News, à l'adresse vicnews.com. On revient un instant dans le portail de Radio-Canada. Je tenais à vous souligner cette nouvelle concernant le secteur énergie et plus particulièrement les pipelines. Des autochtones pro-pipelines font entendre leur voix. C'est dans le portail de Radio-Canada. Alors que l'expansion du pipeline Trans Mountain est sur le frein depuis que des Premières Nations ont convaincu le nouveau gouvernement néo-démocrate de John Horgan de se joindre à la bataille juridique d'opposition au projet, d'autres voix autochtones s'élèvent pour appuyer l'oléoduc de Kinder Morgan, le fameux Trans Mountain. Alors, cet article donne la voix à des membres des Premières Nations qui sont en faveur de l'expansion du pipeline Trans Mountain. Ils ont aussi, bien sûr, voix au chapitre. Vous aurez leur intervention, leur avis dans cet article de Radio-Canada intitulé « Des autochtones pro-pipeline font entendre leur voix ». On va maintenant jeter un petit coup d'œil aux pages du Times Colonist. UVic, l'Université de Victoria, a perdu l'un de ses plus grands représentants de la faculté de sciences politiques. Il s'agit de Norman Ruff, qui est décédé ces jours-ci à l'âge de 78 ans. C'était un expert de la politique provinciale. Il était fréquemment cité par les reporters journalistes de la province. Il avait une longue expérience de la politique ici en Colombie-Britannique. Il avait justement encore tout récemment commenté le roman feuilleton de l'élection de mai 2017 qui avait mené à la défaite en chambre de Christy Clark lors d'un vote de confiance. Mais bien sûr, il avait commenté l'actualité de la province depuis des décennies. Il était professeur émérite de l'Université de Victoria. Il avait pris sa retraite en 2005, nous informe cet article du Times Colonist. Et donc Norman Ruff, décédé à l'âge de 78 ans. Vous trouverez ça sous le titre « UVic Political Scientist Norman Ruff Dies at 78 ». C'est un article signé par la journaliste Katie DeRosa. Pour clore cette revue de presse provinciale et locale, nous allons compléter avec un article aperçu pour vous dans le Journal de Québec à l'adresse journaldequebec.com. Vous allez comprendre, ça concerne Victoria. C'est un événement qui est survenu à Victoria dont il est question dans cet article. Une mère éplorée se sent oubliée, c'est le titre. Stéphanie Lachance, dont le fils a été assassiné à Victoria, regrette que la justice ne fasse pas de place aux victimes. Après deux coûteux voyages en Colombie-Britannique où son fils a été assassiné, la mère d'un jeune homme de Lévis se prépare à retourner à Victoria en dénonçant notre système judiciaire qui ne laisse que très peu de place aux victimes d'un crime. Le texte est signé par le journaliste Jean-François Racine, c'est dans le Journal de Québec. C'est l'injustice entre la défense et l'aide aux victimes qui me fait réagir, a déclaré la mère du jeune homme assassiné il y a quelques mois à Victoria. La mère de la victime s'élève contre le système de justice. L'accusée est prise en charge à 100%, a-t-elle déploré. Ils ont des programmes qui coûtent des millions. Il faudrait comparer ça à ce qui est redistribué aux victimes. Le ratio doit être assez spectaculaire, a dénoncé vigoureusement Stéphanie Lachance, peut-on lire dans cet article. Et l'article rappelle que le 26 novembre 2016, le fils de Stéphanie Lachance, Raphaël Bussière, âgé de 20 ans, avait été mortellement atteint d'un coup de couteau à Victoria. Le suspect a rapidement été arrêté après les faits. Alors, la suite de l'article, c'est peu ou prou une interview de la mère de la victime qui a effectué jusqu'ici deux voyages ici à Victoria et compte en effectuer un troisième pour suivre les développements du procès de l'accusé Justin Michael David Carté, 27 ans, qui était l'auteur de ce meurtre non prémédité. Vous aurez ça dans le Journal de Québec à l'adresse journaldequebec.com. Et c'est sur cette actualité, ce fait divers, qu'on va refermer la revue de presse provinciale et locale. L'émission s'achève. Merci d'avoir été à l'écoute. On va se laisser sur une pièce de jazz tirée d'un album de Beth McKenna, un album tout récent que mon collègue Kevin Simonard mettra en valeur dans le cadre de l'émission Ce soir on jazz, ce vendredi à 18h, en reprise dimanche 22h. Merci d'avoir été à l'écoute du débrief édition des 21 août. On se retrouve demain, même heure, même fréquence. À très bientôt.
Bonjour, je m'appelle Alexandra du 19e Parlement Jeunesse de la Colombie-Britannique et vous écoutez présentement CILSFM.
Ici Kevin Simonard, votre animateur de l'émission Ce soir en jazz. Je vous accompagnerai cet été tous les vendredis soirs à 22h sur les ondes de CILSFM. Un rendez-vous consacré au jazz canadien.
Bonjour, ici c'est Dominique de la Société francophone de Victoria. Vous êtes à l'antenne de CILSFM 107.9.
Bonjour, je m'appelle Trini et vous écoutez CILSFM à Victoria.
Amen. Aimez-vous le jazz? Jung et moi, Kevin Simonard, votre hôte et animateur de ce soir en jazz, sur les ondes de CLSFM, tous les vendredis soirs à 22h. C'est le temps d'en jazzer.
No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, retourne chez toi. Je fais la sieste moustique, arrête un peu ta musique, ne sois pas antipathique, ne me pique pas. Moustique mon vieux, tu vois trop petit, tu as des ailes, va voir du pays. J'ai un patron plus large que moi, vas-y de confiance, c'est moi qui t'envoie. Non me moleste mosquito, non me moleste mosquito, non me moleste mosquito, retourne chez toi. Tu me vois mélancolique, de te troubler ton pique-nique. Si tu me goûtes moustique, tu n'aimeras pas. Y'a des pays pleins de volupté pour un moustique de qualité. À Saint-Tropez, à Honolulu.